Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, heureuse de vous retrouver pour cette 9e émission, encore une de plus consacrée aux femmes artistes, artistes femmes au cours du temps. Le 19e siècle est bien entamé maintenant. Je vous ai présenté des femmes de lettres, des artistes peintes et la liste est longue et non exhaustive. Vous avez écouté de la musique de femmes compositrices, les dernières en date se nommant Louise Farinck et Marie-Joëlle. Alors, faute de temps, je n'ai pu vous parler de Marie-Joëlle la dernière émission. Aussi, j'aimerais vous la présenter afin que vous fassiez connaissance avec elle et nous écouterons de nouveau l'une de ses compositions. Alors, qui était Marie-Joëlle ? Marie-Joëlle était alsacienne, yo-yo, Sichefort, un petit clin d'œil pour les Alsaciens égarés en Périgord. Elle est née Trautmann, Jaël étant le nom du mari, pianiste comme elle. Elle est née au milieu du 19e siècle, en 1846. Alors, il est dit aussi qu'elle était enfant prodige, hein, ce qui ne m'étonne pas, vu ce qu'elle a laissé en production derrière elle. Et elle reçut d'ailleurs pour le piano le premier prix de conservatoire de Paris en 1862. Alors, que fit-elle dans sa vie de musicienne, à part jouer du piano en virtuose d'ailleurs, comme son mari, le pianiste Alfred Jaël, qui eut une renommée européenne? Eh bien, elle fit en plus des recherches en collaborant avec Charles Ferré, un médecin physiologiste de l'hôpital Kremlin-Bicêtre de Paris. Or, c'est plutôt étonnant qu'une musicienne du 19e siècle se rapproche d'un médecin physiologiste, mais il faut savoir que ses recherches portaient sur l'optimisation de méthodes d'enseignement du piano. Et elle tenta de mettre en lumière le rapport qui existait entre pratique de l'instrument et les facultés mentales, auditives et visuelles pour optimiser l'apprentissage. Or, sa méthode, publiée en 1899, s'intitule « Le toucher enseignement du piano basé sur la physiologie ». Et elle propose une dizaine d'ouvrages sur le sujet. Alors, je lis ce que j'ai trouvé sur Internet, sur le site marie-jaël-alsace.net, à Marie-Joëlle de l'Alsace à l'Europe. Par une démarche expérimentale originale à cette époque, elle, c'est-à-dire Marie-Joëlle, parvient à la conclusion que le bon geste générateur d'un beau son passe non seulement par l'éducation de l'oreille et de la main, mais aussi par les capacités tactiles, visuelles et mentales du musicien. Alors, elle élabore une méthode qui intègre les dimensions musicales et esthétiques à l'enseignement du piano. Alors, je pense que là, l'explication est bien claire pour comprendre sa démarche. Alors, en plus de sa pratique pianistique, de ses recherches en enseignement, elle sera l'une des premières femmes à être admise à la Société des compositeurs de musique, présidée à l'époque par Camille Saint-Saëns, hein, que vous connaissez sûrement, et qui a composé, entre autres, le Carnaval des animaux, l'opéra Samson et Dalida ou la danse macabre, par exemple. Alors, pour nous rendre compte du travail de composition de Marie-Joëlle, eh bien, je vous propose maintenant d'écouter une musique au piano qui est l'esquisse romantique numéro 1.
Thank you.
voilà pour Marie-Jaël, et je vous proposerai plus loin d'autres musiques composées par des femmes du XIXe siècle. Mais pour le moment, nous allons retrouver nos peintres suite de l'émission précédente. Alors, ce sont des peintres qui viennent de différents horizons. La plupart se retrouvent dans les grandes villes d'art et de culture, notamment Paris, puisque maintenant, quand même, les femmes peintres peuvent se déplacer sans chaperon. Alors, face à la demande des écoles secrètes pour elles, même si les institutions d'État restent peu accessibles ou, quand elles le sont, très pointilleuses et limitatives en possibilités d'apprentissage, de même que coûteuses pour les femmes alors qu'elles restent gratuites pour les hommes. Si bien que l'émission précédente, je vous ai fait découvrir quelques-unes de ces femmes venues de Russie, d'Angleterre ou des États-Unis, et je vous ai présenté des Irlandaises, des Norvégiennes. Alors qu'elles se déplacent ou pas, il est important de souligner qu'elles tentent de s'émanciper pour exister et s'exprimer en tant qu'artistes, malgré interdits et obstacles palpables dans tous les pays. Et ce sera l'occasion pour elle de prendre position en créant des mouvements féministes, des associations de collaboration et de soutien, etc., pour se développer, voire s'affirmer. D'ailleurs, certaines y parviennent et leur nom est encore cité de nos jours. Et vous avez tous entendu au moins une fois parler de Marie Cassatt avant que je ne trace son parcours dans l'émission d'avant. Et aussi de Rosa Bonheur, Suzanne Valadon, Berthe Morisot. Et peut-être que Marie Bakertchev, dont je vous ai également relaté la courte mais néanmoins riche existence, l'émission d'avant, fait partie du lot. Alors à part Rosa Bonheur, née en 1822 en début de siècle, les autres sont nées dans la seconde moitié du 19e siècle et sont donc plus proches de nous, ce qui fait qu'elles peuvent encore imprimer les mémoires de nos contemporains, pour peu que ceux-ci tendent l'oreille et surtout ouvrent les yeux dans la direction de la peinture du XIXe siècle. Alors Marie Cassatt est née en 1844, les autres fin des années 50, début des années 60, du XIXe siècle bien sûr. Elles sont en cela contemporaines du peintre Louise Brello, dont je vous ai cité l'émission d'avant, qui elle est née en 1856. Quant à Suzanne Valadon, elle est née en 1865 et a laissé son empreinte, déjà dans la vie des peintres et sur leurs toiles, en tant que modèle très apprécié, notamment par le peintre Pubis de Chavannes. On sait d'elle en outre qu'elle est la mère du peintre français Maurice Utriot et qu'elle a commencé sa carrière en tant qu'acrobate de cirque, qu'une mauvaise chute a définitivement éloignée de cette pratique. Alors on dit aussi que son goût de la peinture lui est venu en regardant les peintres et que Toulouse-Lautrec remarqua son beau coup de crayon, ainsi qu'Edgar Degas, qui la soutiendra par la suite dans son art. Et de fil en aiguille, en s'affirmant, elle remportera des succès, mercantiles également, pour la mettre à l'abri du besoin, du moins pendant un certain temps. Alors sa peinture est plutôt forte, le trait est affirmé, un peu à l'image de ce qu'elle dégage, de son beau visage bien structuré, ça c'est mon avis. Alors sur une si belle lancée, évoquons également le cas de la peintre française Rosa Bonheur, sa personnalité décalée par rapport aux normes en vigueur pour les femmes du XIXe siècle dans nos sociétés occidentales. Je rappelle qu'elle est née en 1822, donc début de siècle. Bon, il faut dire que le parcours artistique de cette femme est si exemplaire que je dirais sans faute. Alors comment a-t-elle fait? Je n'en sais rien. Son talent, sans doute, il suffit de voir son travail pour s'en convaincre. Le tout conjugué à un environnement propice, une certaine chance peut-être aussi. Il est à noter qu'elle est fille d'un peintre qui l'encouragea, c'est déjà un bon début. Elle remportera des prix de salon, recevra des commandes d'État, de particuliers, jusqu'à atteindre une cote faramineuse, ce qui finira même par la gêner, tant les sommes d'argent qu'on lui proposera pour ses œuvres seront importantes. Alors peignait-elle des sujets appréciés et recherchés à l'époque, surtout par des hommes à pouvoir économique? Eh bien, j'aurais tendance à penser que oui. Alors, il faut dire que Rosa Bonheur aimait particulièrement les scènes champêtres, la ruralité avec les animaux, confirmée par sa célèbre peinture intitulée « La marche aux chevaux », « Le marché aux chevaux ». Alors pour peindre ses scènes avec des animaux, elle avait besoin de s'immerger physiquement dans l'ambiance, si bien qu'elle le faisait habillée en homme pour passer inaperçue. Et ainsi, ni vue ni connue, elle se fondait dans le monde agricole, notamment dans les foires spécialisées, allant jusqu'à fréquenter les abattoirs pour y étudier l'anatomie animale. Et il est dit que grâce à sa renommée, elle aurait obtenu quelques dérogations et passe-droits pour cela. Et cerise sur le gâteau, eh bien c'est la première femme peintre à avoir reçu la Légion d'honneur. Alors Rosa Bonheur, qui porte là bien son nom, je dirais qu'elle a pleinement réussi sa vie d'artiste puisqu'elle a pu faire vivre son art et vivre de son art, car la reconnaissance et l'économique étaient au rendez-vous tout au long de son existence. Ce qui n'est pas le cas, et je l'ai cité dans l'émission précédente, de la peintre suisse d'origine allemande, Louise Breslau, qui, comme Rosa Bonheur et une autre peintre nommée Virginie de Montbreton, recevra également le titre de chevalier de la Légion d'honneur. Alors Louise Breslau, reconnue par ses professeurs comme l'une des plus brillantes et prometteuses élèves, est devenue une peintre à succès, en accumulant les prix et notamment les médailles d'or dans les salons. Sauf qu'elle se plaignait de privations dans ses courriers. Elle aurait dit qu'elle se sent faire partie de ces travailleurs obscurs qui font les plus grands sacrifices et acceptent des privations les plus dures pour pouvoir vivre leur rêve d'art. Et à ce qu'il paraît, les 15 premières années de sa vie parisienne auraient été les plus dures. C'est quand même assez long, sans compter les autres. Alors si j'avais prononcé le nom de Louise Breslau, Breslau, sans vous relater sa vie, je ne suis pas sûre que vous auriez su qu'il s'agissait d'une femme peintre talentueuse du 19e siècle. Alors elle a peint beaucoup de portraits, que je n'ai réussi à admirer malheureusement que sur livre ou internet. Alors pour ma part, j'apprécie sa facture et ce qui émane en aura féminine de ses peintures, dans le sens douceur et délicatesse. Et nous pouvons apprécier en outre l'exigeante technique qui soutient l'expression de sa peinture. Alors on peut en effet se poser la question de savoir quel écho il en reste maintenant, en partant du constat que ces femmes avaient, comme les hommes, du talent et recevaient même consécration. Et pour creuser le débat, ce qui ne m'étonne pas de moi, se demander aussi pourquoi de ces deux peintres, l'une vivait bien dans une lumière qui continue de briller, tandis que l'autre survivait et survit encore dans l'ombre. À moins que je ne sois pas aussi bien informée en matière d'exposition sur ces femmes, et c'est possible. Alors je vais y réfléchir le temps d'une petite pause musicale, et vous aussi si le cœur vous en dit, parce que j'ai aussi envie de mettre à l'honneur les musiciennes, vous l'avez compris. Aujourd'hui, il s'agit d'une Française née en 1857, la seconde partie du 19e siècle, repérée pour ses dons précoces par le compositeur Georges Bizet, un ami de la famille, qui interpella les proches et notamment le père, le tout pour essuyer un refus cinglant et catégorique. Et le père se serait justifié en disant « Dans la bourgeoisie, les filles sont destinées à être épouses et mères ». Alors, ce ton qui n'admettait aucune objection à une époque où le pouvoir, sous toutes ses formes, était exclusivement patriarcal, eut le don de plonger la jeune fille, et sa maman aussi d'ailleurs, une excellente pianiste, dans le plus profond désespoir. Mais par quelque habile stratagème et le soutien de Georges Bizet, la jeune fille qui se nomme Cécile Chaminade parvint tout de même à étudier le piano avec des professeurs privés. Et de fil en aiguille, avec un talent qui s'affirme et s'impose, et un père qui disparaît, elle finit par enchaîner des récitals sur toute la France, où elle est appréciée partout, et notamment par la reine d'Angleterre qui l'invite. Alors traumatisée sans doute, elle fera toute sa vie l'autorité masculine, se passant même de secrétaire ou d'impresario, embarquant plutôt sa mère avec elle dans ses tournées. Elle contractera quand même un mariage blanc qui durera 6 ans et cessera au décès du monsieur. Et elle dira d'ailleurs « Mon amour, c'est la musique, j'en suis la religieuse, la vestale ». Et c'est le décès de sa mère qui la laissera inconsolable. Alors avec la guerre qui arrive, elle prend la direction d'un hôpital pour voir sa santé se dégrader par la suite. Plus jamais elle ne se produira en public, même si elle compose encore un peu. Elle mourra quasiment oubliée en 1944. Enfin, sa production est quand même conséquente. Elle a composé sonates, opéras, symphonies, des pièces romantiques pour piano, des mélodies. Aussi, nous allons écouter maintenant de Cécile Chaminade, la sérénade opus 29 pour piano. Quelque peu adoucie, nous allons revenir aux femmes artistes. Alors que peignait-elle, comment s'exprimait-elle, et généralement et en particulier? Alors il est vrai que la critique, comme d'habitude, les renvoyait à des genres dits féminins ou mineurs, tels le portrait, la miniature, le pastel, arguant qu'il fallait laisser aux hommes les sujets sérieux, prestigieux et élevés, en accord avec l'expression d'un génie potentiel. En général, elle peignait surtout du figuratif, mais avec un savoir-faire indéniable à ne pas envier un peintre masculin, et je vous engage à le vérifier par vous-même, déjà avec les noms que je vous ai donnés. Alors c'est simple, sur internet, hein, ou dans une bibliothèque, ou au mieux, voir les œuvres en musée ou dans une exposition, si c'est possible. Alors il est vrai que la plupart de ces femmes s'adaptaient aux attentes de la société vis-à-vis d'elles en peignant portraits, vie domestique, enfants, des scènes de ménage teintées de tendre sentimentalité. Et vous en avez l'exemple avec la peintre américaine Jenny Augusta Bronscombe. D'autres se verront attirées vers la fin du XIXe siècle par la peinture impressionniste, qui représente ce courant nouveau, critiqué par la société conventionnelle et qui fédère les artistes bien connus comme Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas, Camille Pissarro, pour ne citer qu'eux. Alors les peintres Marie Cassatt, hein, que je vous ai présenté l'émission précédente, et Berthe Morisot en subiront également l'influence, d'autant plus que l'une d'elles, nommée Eva Gonzalez, fille d'artiste avec père écrivain et mère musicienne, deviendra la seule élève du peintre Édouard Manet après avoir étudié dans l'atelier du peintre Charles Chaplin. On ne pourra nier l'influence du professeur sur son élève en regardant ses œuvres, ce qui n'empêchera pas Eva Gonzalez de produire une peinture de qualité. Berthe Morisot, proche du peintre par lien familial, elle sera plus personnelle en adaptant l'impressionnisme à sa sensibilité. Elle tracera son chemin en s'affirmant dans son art, grâce en partie au soutien d'une famille cultivée, ouverte et de surcroît aisée, avec un père qui n'hésitera pas à faire construire pour elle et sa sœur un atelier où elles pourront s'exprimer à loisir. De plus, Berthe Morisot, à l'abri de la nécessité et pleinement investie dans son art, refusera de se marier, observant certainement le naufrage artistique de sa sœur, engloutie par ses activités domestiques chronophages. Cas classique pour nombre de femmes stoppées dans leur élan créatif à cause du mariage. Et Berthe convolera quand même sur le tard et avec Eugène Manet, le frère du peintre Édouard Manet. Alors, hors de nos frontières, surtout aux États-Unis, l'impressionnisme fait également des adeptes parmi les femmes peintres. Alors, dans ce pays, l'expression y semble plus libre, facilitant l'expression d'une palette non négligeable d'artistes américaines, même si elles subissaient elles aussi la critique. Des écoles d'art émergent, notamment l'une d'elles fondée à Boston par un peintre anglais important nommé William Morris Hunt. Parmi ces femmes, je citerai Lila Cabot-Perry, qui rencontra le peintre français impressionniste Claude Monet et profita avec bonheur de ses conseils. Parmi les Américaines ayant remporté quelques succès, je citerai encore Sarah Miriam Peel, remarquée pour ses talents de portraitiste, et sa sœur Angelica Peel, spécialisée dans les natures mortes et en outre membre fondateur de la Pennsylvania Academy School, qui est l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie aux États-Unis, grande école toujours en activité. Alors, c'est également la portraitiste privilégiée de la haute société, Cecilia Beau, qui rentrera également à la Pennsylvania Academy of Fine Arts comme professeur, et aussi Sophie Anderson, entre autres. Alors, en ce qui concerne l'Angleterre, le ton est donné avec la mode victorienne, où se peindront surtout des scènes présentant la bonne société, et je citerai Rolinda Sharpless. Quant au peintre Elizabeth Thompson Butler, elle s'attachera à représenter et relater l'histoire de l'Angleterre, et ceci avec grand succès. Et il est dit que sa scène représentant la guerre de Crimée était réalisée avec un tel réalisme et précision qu'elle bouleversa le public jusqu'à provoquer chez lui des effusions qu'un policeman fut obligé de contrôler. Alors, la plupart de ces peintres anglaises inaugurent un mouvement nommé les Pré-Raphaélites, né au Royaume-Uni en 1848, date officielle d'une confrérie fondée par les peintres John Everett Millais, William Holman Hunt et Dante Gabriel Rossetti. Alors, c'est un mouvement qui prend comme référence et modèle la peinture italienne du XVe siècle avant Raphaël. Leur motivation, c'était d'exprimer au travers de la peinture un idéal, stimuler chez le public ce même idéalisme vers la pureté, l'aspiration à la beauté et l'envie de retrouver un sens moral dans une société qui leur semblait décadente. Alors, les femmes représentées dans cette peinture sont des symboles, des allégories, des figures mythologiques, des anges. Et curieusement, la plupart des femmes qui servent de modèles sont également peintres elles-mêmes, entraînées par ce même élan de renouveau opposé à l'académisme guindé de l'époque victorienne. Parmi elles, nous rencontrons Elisabeth Sidal, l'épouse de l'un des fondateurs, Dante Gabriel Rossetti, modèle privilégié de plusieurs peintres et également poétesse en plus d'être artiste peintre. Alors, elle est présentée comme une personnalité complexe, une nature fragile qui a bien failli rester, si je puis dire, lorsque, pour servir de modèle à John Everett Millais, pour son Ophélie, la belle Ophélie, et écoutons Rimbaud, sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélie flotte comme un grand lys, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des halalis. C'est magnifique, hein? Trouve pas Anthony, je te réveille. Bon, c'est moins romantique de dire qu'elle accepta, pour être le modèle d'Ophélie, de coucher dans la baignoire remplie d'eau froide, mal chauffée en hiver, qui se refroidissait trop vite, et le tout pour y attraper un genre de pneumonie ou de refroidissement. Bon, ceci dit, elle ne fit pas de vieux os car elle mourut à l'âge précoce de 32 ans en laissant une production picturale surtout liée à des scènes du Moyen-Âge. Alors je citerai également Marie Spartalis Tillman, britannique d'origine grecque, considérée comme l'une des plus grandes artistes féminines pré-raphaélites. Son talent évince même celui des artistes masculins. Également remarquée pour son type de beauté, une beauté considérée comme exceptionnelle, elle fut également le modèle attitré des peintres pré-raphaélites. Alors en tant que femme dans l'Angleterre victorienne, elle subit les restrictions habituelles et a été poussée dans l'ombre pour ne pas déranger la bonne société, surtout qu'elle manifestait quelques tendances féministes, notamment dans le traitement de ses sujets picturaux. Alors il est vrai que la beauté féminine a toujours du mal à faire voir l'intelligence et la sensibilité humaine qui se cachent derrière et aussi à se faire respecter parfois. Alors, autre peintre, surtout illustratrice, Marie-Éléonore Fortescue-Brigdell, née en 1872 et qui faisait partie de la deuxième génération des pré-raphaélites. Et elle a laissé également une belle production colorée et harmonieuse. Et nous terminons cette émission, hein, car il est déjà l'heure de nous quitter. Suite à la prochaine fois, à bientôt sur La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.